nous rejoindre le journal Alexis Morel. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Continuer de se déplacer ou prendre du temps pour réviser, équation compliquée pour les finalistes de la présidentielle. À deux jours maintenant du grand débat d'entre-deux-tours, Marine Le Pen fait volontairement une pause dans sa campagne pour préparer un duel qui ne lui avait pas réussi en 2017. Tandis qu'à gauche, vous l'entendrez, les insoumis se projettent déjà dans le troisième tour, les législatives du mois de juin, avec la délicate question des alliances. Dans ce journal aussi, ces réfugiés de la guerre en Ukraine que la Pologne a oubliés car ils ne sont pas ukrainiens. Un service psychiatrique modèle est pourtant victime de coupes budgétaires en Indre-et-Loire. Et l'artisanal plutôt que l'industriel, les achats de chocolat influencés par la crise Kinder.
Et au micro de Léa Salamé à 7h50, aujourd'hui l'acteur Félix Moati et le producteur Florent Pfeiffer pour Jour de gloire, fiction tournée diffusée en direct sur Arte TV, YouTube, Facebook, dimanche prochain.
France Inter.
Et cette fois, Alexis, elle ne veut pas se rater.
Dans 48 heures, l'événement de cette dernière semaine de campagne présidentielle, le débat des finalistes. Marine Le Pen se s'est attendue au tournant après sa prestation très critiquée en 2017. Alors la candidate RN ne lésine pas sur la préparation. Un court déplacement ce matin à Caen et dès la mi-journée, elle partira se mettre au vert jusqu'à mercredi. Pas question, Élodie Forêt, de reproduire les erreurs d'il y a 5 ans.
2017, jusqu'à la veille du débat, l'agenda de Marine Le Pen était saturé. 2022, pour conjurer le sort, changement de pied radical avec une retraite studieuse de 2 jours dans la maison de campagne de l'un de ses conseillers. 2 jours sans médias, ni déplacement pour faire le point d'abord sur une première semaine d'entre-deux-tours mitigée où Marine Le Pen, criblée d'attaques, a semblé perdre pied. L'entrée dans l'atmosphère était désagréable, concède un cadre. Comme en septembre, on avait l'impression d'être dans le brouillard complètement inaudible. Mercredi, face à Emmanuel Macron, il s'agira donc de reprendre la main.
Je lis tellement d'incongruités, tellement de caricatures, qu'il est extrêmement important que je puisse avoir un moment pour pouvoir rassurer tout le monde et montrer que mon projet est crédible, applicable.
Et pour rassurer les Français, il s'agit de ne laisser aucune faille, aucune prise. On va bosser le chiffrage, la constitutionnalité du programme, indique un proche. Traumatisée par 2017 et les errements sur l'euro, l'équipe de Marine Le Pen s'est aussi posé la question : quelle inflexion admettre cette fois sans dénaturer le programme ? Marine Le Pen a finalement tranché en adoucissant sa position sur le voile dans la rue. « Je ne suis pas obtus », a déclaré samedi la candidate, espérant ainsi apparaître mercredi plus pragmatique qu'idéologue.
Et son entourage monte aussi au créneau face aux accusations de détournement de fonds européens par Marine Le Pen et ses proches en tant qu'eurodéputé. Des boules puantes réagit le Rassemblement National. Le maire RN de Perpignan, Louis Alliot, est notre invité à 8h20. Marine Le Pen à Caen donc ce matin. Pas de déplacement prévu en revanche aujourd'hui pour Emmanuel Macron, le président candidat qu'il a reconnu hier soir sur TF1. L'extrême droite n'a pas baissé pendant son quinquennat, contrairement à sa promesse de 2017, ce qu'il explique par la succession des crises gilets jaunes, Covid, Ukraine. Chez les insoumis, on est très partagé sur la conduite à tenir pour dimanche. Selon la consultation interne, un tiers seulement des soutiens de Jean-Luc Mélenchon pensent voter Macron, les autres envisagent de s'abstenir ou de voter blanc. Mais l'enjeu n'est plus vraiment là pour le parti qui se projette déjà sur l'après, la revanche du mois de juin, les élections législatives. C'était le sujet de discussion hier soir entre jeunes insoumis réunis dans le 19e arrondissement de Paris. Steven Goyer y était aussi.
La présidentielle est finie, c'est désormais les élections législatives qui commencent.
Remobilisation des troupes en vue des prochaines législatives. Ils sont une centaine à la terrasse du café à se demander notamment avec quel parti, quel mouvement se rapprocher, les communistes, les écologistes, peut-être, même si pour Colline, cette alliance arriverait un petit peu tard.
J'ai un peu de rancœur par rapport à ce qui s'est passé aux dernières élections. On avait une possibilité historique de passer au second tour. Fabien Roussel, Yannick Jadot, ils portent leur responsabilité dans ça et c'est vrai que c'est quelque chose, voilà, je ne peux pas oublier.
Quant à un éventuel rapprochement avec les socialistes, certains mots ont laissé un goût amer à aimer, pas forcément enthousiaste.
On s'est fait traiter de poutinien, de dictateur, de clown aussi par des gens du PS. Donc il faut qu'on réfléchisse à tout ça. Après, il faut aussi qu'on ne soit pas rancunier.
La rancune est pourtant bien présente encore une semaine après le premier tour. Aurélien Lecoq, co-animateur des Jeunes Insoumis, appelle à un troisième tour à l'occasion des législatives, mais...
Ça ne se fera pas avec les socialistes. Pour ma génération, le Parti Socialiste est d'un autre temps maintenant. J'ai commencé à militer, le Parti Socialiste était au pouvoir, c'était la loi El Khomri, c'était la loi travail. Donc évidemment, on n'a pas spécifiquement envie... De faire quelque chose avec eux, c'est eux qui ont tout détruit.
Les jeunes reprennent le discours de leurs aînés dans le mouvement. Pour un rapprochement en vue des prochains scrutins, il faudra se baser sur le programme de la France Insoumise.
On se relève et à la fin on gagnera.
Steven Goyer avec les Jeunes Insoumis à Paris.
France Inter, 7h35. La situation à l'hôpital Alexis s'invite aussi dans cette campagne.
Oui, avec par endroits des services au bord du gouffre, faute de lits, de personnel. Particulièrement concernée, la psychiatrie est en crise depuis des années. Et cette fois, l'alerte vient de la contrôleure générale des lieux de privation de liberté. Elle interpelle le ministre Olivier Véran au sujet de l'hôpital de Chinon en Indre-et-Loire. En psychiatrie, un tiers des effectifs infirmiers vont y être supprimés, remplacés pour certains par des aides-soignants, alors que la prise en charge y serait pourtant exemplaire, Hélène Chevalier.
Quand la contrôleur des lieux de privation de liberté écrit en urgence à Olivier Véran, c'est généralement pour signaler un dysfonctionnement. Là, c'est tout l'inverse. La visite de ces agents a révélé des conditions de prise en charge particulièrement respectueuses de leur liberté, relate Dominique Simoneau.
Les collègues qui ont visité ce service sont revenus en me disant que les soins sont assurés de façon respectueuse, l'équipe fait attention aux patients, il y a jamais de contention, il n'y a pas non plus d'isolement. Pourquoi dans un endroit qui va si bien, dont on pourrait se recommander en se disant bah tiens, ce sont d'excellentes pratiques, on devrait les diffuser partout, elles devraient servir d'exemple, la récompense c'est qu'on leur supprime des postes. Moi, ça me désole.
Dit en plein d'infirmiers remplacés par 6 postes d'aides-soignants, la direction de l'hôpital de Chinon se justifie par une adaptation des métiers aux soins dispensés. Pour Alexandre Robert, de Force Ouvrière, les 9 millions de déficits de l'hôpital en seraient plutôt la raison. Le syndicaliste déplore des nouvelles économies aux dépens de la prise en charge des patients.
Un infirmier a un cursus de psychiatrie qu'un aide-soignant n'a pas. Un infirmier peut donner des médicaments, alors que les soignants, pas. Forcément, on va vers une dégradation des soins.
La contrôleure générale des lieux de privation de liberté s'engage à retourner dans le pôle de psychiatrie pour constater si la prise en charge des patients a évolué.
86 000 cas de Covid recensés hier contre 107 000 le dimanche précédent. Les contaminations continuent de baisser en France et le nombre d'hospitalisations plafonne ces derniers jours avec un peu moins de 25 000 patients soignés avec un diagnostic Covid. En Chine, Shanghai enregistre officiellement 3 premiers décès depuis le début du confinement extrêmement strict. En dépit de cette mise sous cloche de la mégalopole, le pays enregistre un rebond de 5% de sa croissance au premier trimestre 2020. En Ukraine, Donetsk et Luhansk risquent de subir bientôt le même sort que Mariupol. C'est le président Zelensky qui prévient, tout en appelant les habitants du Donbass à résister, ne coopérez pas, saboter les ordres des occupants russes. D'ailleurs, à Mariupol, les soldats ukrainiens ont rejeté l'ultimatum fixé par la Russie, pas question de se rendre. Près de 5 millions de personnes ont fui l'Ukraine en moins de 2 mois de guerre. Plus de la moitié ont transité par la Pologne. Parmi eux, une majorité d'Ukrainiens, bien sûr, mais aussi des étrangers qui étudiaient ou travaillaient jusque-là en Ukraine. Et ceux-là n'ont pas droit aux mesures mises en place par Varsovie, les aides sociales, l'accès au marché du travail. Ils sont un peu les oubliés de cet exil. Une association catholique vient donc d'ouvrir un hôtel pour les accueillir. C'est le reportage en Pologne de Sarah Bakaloglu.
À l'intérieur de cet hôtel, plus d'une dizaine de drapeaux sont accrochés au mur. Depuis son ouverture, près de 500 personnes de plus de 30 nationalités différentes y ont été accueillies. Un centre d'hébergement crucial selon Mariana Osulinska, la coordinatrice de l'hôtel.
Les réfugiés non ukrainiens se retrouvent dans une situation plus difficile que les autres, car d'abord la loi les autorise à rester en Pologne que pour 15 jours. D'autre part, ces réfugiés ne sont pas si souvent hébergés chez des particuliers. Et parfois nous recevons des informations sur des bus allant en Europe de l'Ouest pour les réfugiés, mais réservés à ceux de nationalité ukrainienne.
Les réfugiés étrangers qui résidaient de manière temporaire en Ukraine doivent demander un permis de séjour pour pouvoir rester en Pologne. Assise dans le réfectoire, Liliane vient du Nigeria. Elle était en 5e année de médecine en Ukraine.
Ici en Pologne, je dois d'abord régler ma situation auprès du bureau de l'immigration. J'ai déjà fait les formalités pour demander un permis étudiant. Quand je saurai si je peux rester, je vais devoir réfléchir à comment étudier ici, car les frais de scolarité sont 3 fois plus élevés qu'en Ukraine.
L'association cherche désormais un espace plus grand pour continuer d'accueillir les réfugiés non ukrainiens en Pologne. Varsovie, Sarah Bekeleglou, France Inter.
Les banques russes ont de nouveau le droit ce matin de vendre des devises étrangères à leurs clients. C'était interdit depuis le début de la guerre en réaction aux sanctions occidentales contre Moscou, notamment pour protéger le rouble qui plongeait sur les marchés. Mais depuis, la monnaie nationale russe va mieux, sa valeur est nettement remontée. Le gouvernement israélien est fragilisé ce matin après de nouvelles violences sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Une vingtaine de blessés dans les accrochages entre manifestants palestiniens et forces de l'ordre. Il y en avait déjà eu 150 vendredi. En réaction, le parti arabe israélien Ram suspend son soutien à la coalition du Premier ministre Bennett. Il en fait partie depuis juin dernier. C'est une première en Israël pour un mouvement arabe.
Il est 7h40, c'est donc un lundi férié, Alexis est chocolaté.
Oui, si vous ne vous êtes pas gavé hier, vous pouvez encore vous rattraper en ce lundi de Pâques. Et pour la traditionnelle chasse aux œufs, moins de Kinder, moins d'industriels cette année, forcément avec l'alerte à la salmonelle. Ce qui fait le bonheur des artisans chocolatiers indépendants. Arthur Fradin l'a constaté à Boulogne-Billancourt, près de Paris.
Je vais vous prendre un œuf 300 grammes chocolat au lait, s'il vous plaît.
Contrairement à certains rayons de supermarché, cette boutique artisanale ne manque pas de fondue de chocolat ce matin. À la caisse, on s'interroge autour du scandale Kinder.
Fâcheux quand même pour eux en pleine période de Pâques.
Certaines clientes, comme Sandrine, ont d'ailleurs décidé de tourner le dos à la marque. Pourtant, ses petits-enfants en raffolent.
On a en général le vendredi un petit et à période de Pâques, ils ont le gros œuf Kinder. Et exceptionnellement cette année, ne voulant pas prendre de risque pour eux, j'ai acheté du vrai chocolat chez un chocolatier.
Pour d'autres habitués comme Michel, Kinder est depuis longtemps chocolat non gratin.
Ah ben jamais, jamais de toute façon.
Le patron, Boran Messassi, se réjouit de la confiance que lui accordent ses clients.
Mais c'est vrai qu'on a eu pas mal de gens qui sont venus. Nous, on connaît tout le produit et puis on n'a pas ce genre de logique de transformation. C'est juste, ça n'a rien à voir.
Rien à voir parce que le chocolat est travaillé sur place et qu'il est importé directement de Madagascar. Le revers de la médaille, c'est le prix. Raphaël, la vingtaine.
Et si tu as le budget, si tu veux vraiment de la qualité, vaut mieux acheter dans des chocolateries. Mais en tout cas, pour moi, pour un étudiant, j'irai acheter dans Kinder.
Malgré tout, plusieurs clients le disent. Si ces chocolats ont du succès cette année dans leur famille, ils pourraient durablement se détourner des grandes marques comme Kinder.
Un reportage France Bleu Paris. Chaque année à Pâques, les Français consomment 15 000 tonnes de chocolat. Si on fait le calcul, 250 grammes par personne, ce qui reste finalement assez raisonnable.
Merci Alexis Morel. L'édito politique Thomas Legrand.